La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde.
L'État malien vous donne un champ à cultiver. C'est le village qui devient propriétaire du champ, tu comprends ça? C'est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau.
Non, le propriétaire c'est l'État.
Ce sera votre argent, c'est votre récolte. C'est ça le socialisme, c'est aussi simple que ça. C'est le partage des richesses entre ceux qui les créent.
Nous sommes au début des années 60 au Mali, comme le met en scène le film de Robert Guédiguian, Twist à Bamako. La jeunesse prend le pouvoir dans cette nouvelle société dont Modibo Keïta est le chef vénéré. Proche de la Guinée de Sékou Touré et du Ghana de Kwame Nkrumah, le nouveau Mali indépendant prend ses distances avec la France coloniale et regarde loin vers l'Est, du côté de l'Union soviétique, mais pas seulement. Née en 1949, la jeune République populaire de Chine s'intéresse aussi à ces nouvelles nations africaines en rupture avec la France et particulièrement à la révolution active de Modibo Keïta.
Auditeurs de Radio Mali, en ce jour mémorable du jeudi 22 septembre 1960 est née la République du Mali, une république indépendante. Absolument et totalement indépendante de tous les liens politiques avec la France. Revenons donc à la séance du congrès de ce matin, qui s'est tenue dans une salle du Collège technique de Bamako, largement pavoisée aux couleurs maliennes et dont les murs étaient tapissés de slogans tels que « Plutôt la mort que la honte, nous tiendrons notre serment, travail, discipline, vigilance, renforcement de l'organisation politique, mobilisation active au service du développement. » La présidence des séances était assurée par M. Yacouba Maïga, vice-président de l'Assemblée nationale de la République du Mali, et la table d'honneur était occupée par les membres du bureau politique.
Ce 22 septembre 1960, le jeune médecin Seydou Badian Kouyaté est à l'écoute. Proche du premier président malien Modibo Keïta, c'est lui qui va écrire les paroles de l'hymne national du Mali, intitulé « Pour l'Afrique et pour toi, Mali ». Alors qu'il a déjà effectué un premier voyage en République populaire de Chine en 1959, la vie du docteur Kouyaté avait déjà basculé.
Officiellement, je menais ma vie de médecin, de militant, mais je n'étais pas responsable de quoi que ce soit au sein du parti RDA. Un jour, Modibo m'a fait appeler. Il m'a dit, nous allons aborder une autre phase de notre histoire. Puis on a parlé d'autres choses. 15 jours après, j'étais ministre. J'étais ministre, j'étais à Brunei. On a donné la radio a donné la liste des responsables. Et j'étais ministre du plan et de l'économie rurale. J'étais très jeune. J'avais 26 ans. Mais je me croyais capable d'apporter quelque chose à ce pays.
La voix de Seydou Badian Kouyaté dans La Marche du Monde, un entretien inédit enregistré à Bamako en 2018 avec vous, Ophélie Rion. Bonjour.
Bonjour Valérie.
En tant qu'historienne spécialiste des socialistes africains, quels souvenirs vous gardez de cette rencontre?
Beaucoup d'émotions en fait, et de réécouter aussi la voix de Seydou Badian Kouyaté aujourd'hui. Voilà, je suis très émue. Quand M. Kouyaté nous reçoit chez lui en 2018 à Bamako, dans le quartier Hippodrome où il habitait à l'époque, eh bien c'est un vieux monsieur, un monsieur qui a 90 ans, qui nous reçoit. Et c'est une figure importante, un des derniers de ce régime de Modibo Keïta, et qui accepte en fait de parler au micro de RFI et de se confier, de se livrer à deux Françaises. Voilà, ça peut paraître étonnant, mais c'est... Mais à l'époque, c'était possible et voilà, c'était un vieux militant anticolonial, anti-impérialiste, mais qui avait des choses à nous dire.
Et justement, au moment des années 60, il est à peine ministre, il a été nommé en 57. Qui est-il à l'époque et d'où vient sa formation et son intérêt pour la Chine?
Alors, Monsieur Kouyaté, en fait, a un parcours un peu singulier, parce qu'il part en 1945 à Montpellier, en France, pour faire ses études. Et il va faire ses études au lycée, en fait. Il entre au lycée en France, ce qui est très rare à l'époque. Il passera son baccalauréat en France et ensuite, il fera des études de médecine à l'université de Montpellier. Donc, il sera formé comme médecin. Il aura une thèse en médecine en 1955. Sur les traitements africains de la fièvre jaune. Et donc, c'est dans ce milieu étudiant en France, à la fin des années 40, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il se forme politiquement. Il va se rapprocher des jeunesses communistes. Il va monter des groupes de jeunes africains autour des questions culturelles, etc. Et donc, c'est dans ce contexte-là, raconte-t-il, qu'il va lire pour la première fois un texte de Mao, de La Contradiction, qui date de 1937, qu'il lit aux côtés des ouvrages marxistes de l'époque, classiques, l'idéologie allemande, Le Capital. Donc voilà, tout cela circule, toutes ces idéologies circulent. Il ne regarde pas que vers la Chine, mais on peut supposer que c'est dans ses années étudiantes que la Chine vient à lui, en quelque sorte, par l'intermédiaire de la France.
Je garde moi aussi un souvenir ému de cette rencontre. C'est vraiment un monument qu'il nous a reçu dans son bureau à Bamako en 2018, au milieu de ses photographies prises en Chine, aux côtés de l'Armée rouge ou de Mao. Et nous avions l'impression de tourner les pages d'un livre d'histoire. Mais vous n'êtes pas venue seule, Ophélie Rion, puisque vous avez tenu à valoriser le travail d'un jeune doctorant chinois, Liu Peng Wang. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Je vous remercie de vous joindre à nous sur RFI. Est-ce que vous avez été surpris, Liu Peng Wang, lorsque vous avez découvert ce témoignage de Seydou Badian Kouyaté, vous qui avez écrit de nombreuses pages sur lui dans les chapitres de votre thèse consacrée à la pénétration de la Chine dans les pays subsahariens ex-français?
Je dirais que non. Je n'étais pas très surpris de découvrir la profonde admiration de Seydou Badian Kouyaté pour la Chine. Parce que déjà à l'époque, les Français le considèrent comme le meilleur apologiste de la Chine. Et puis en Chine également, les Chinois l'apprécient beaucoup pour son rôle dans la mise en place de la coopération sino-malienne. Et dans les rapports chinois, on le décrit comme très syndical envers nous, c'est-à-dire les Chinois. Donc il est considéré un peu comme le interlocuteur clé pour la Chine au Mali. Mais j'avoue que je suis un peu touché pour voir que cette admiration pour la Chine persiste jusqu'à la fin de sa vie. C'est vrai qu'à l'époque, il est déjà marxiste, un marxiste africain, si j'ose dire. Il croit en le socialisme adapté aux réalités maliennes.
Vous voulez dire que vous êtes néanmoins un peu surpris qu'il soit toujours aussi pro-chinois à la fin de sa vie?
Un peu ému quand même.
Un peu ému quand même. Alors partageons ce témoignage avec nos auditeurs, témoignage qui nous permet de nous interroger à la fois sur l'intérêt de la Chine de Mao pour le Mali de Bodibo et pour l'intérêt du Mali de Bodibo pour la Chine de Mao. Et pour commencer, revenons sur les premiers contacts établis par les Maliens avec les Chinois. Nous sommes avant l'indépendance, comme nous le raconte notre grand témoin Seydou Badian Kouyaté, décédé en 2018, quelques semaines après cet entretien.
Moi, j'ai été en Chine pour la première fois avant l'indépendance, en 1959. Parce qu'en 1959, j'ai été voir l'ambassadeur de Chine. Et ça, on était d'accord. Tout le parti était d'accord. Le PFA, c'était le parti formé par le Sénégal de Senghor, le Mali de Modibo Keïta. J'ai été à Berne avec Madera Keïta, voir l'ambassadeur de Chine. Parce que c'est à Berne seulement qu'on pouvait voir le représentant chinois. La Chine n'était pas connue. C'était la Suisse seule. Et ensuite, moi, je suis reparti à Berne. Cette fois-ci, c'était pour un visa. Et je suis allé en Chine. Moi, j'ai rencontré tous les grands. Le premier voyage, je n'ai pas vu Mao Zedong. Mais j'ai vu Chen Yi, qui était ministre des Affaires étrangères, Chuan Lai, premier ministre, et d'autres ministres dont je n'ai pas retenu les noms. Et je suis revenu et j'ai dit à Modibo, j'ai été enthousiasmé par ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce qu'ils ont fait. Les dirigeants que j'ai vus étaient tous des vieux. Ils avaient fait la longue marche. C'était les compagnons de Mao Zedong. De les voir ensemble, de parler avec eux, c'était quelque chose de formidable. De voir comment ils étaient convaincus, comment ce qu'ils disaient venait du très fond. Ça, c'était éblouissant pour moi.
À son retour, Seydou Badian Kouyaté rend compte de son voyage en Chine populaire à Modibo Keïta, mais aussi à Léopold Sédar Senghor. Car en 1959, l'ex-Soudan français et le Sénégal sont alors unis dans la Fédération du Mali.
Senghor m'a de tout temps reproché ça. Seydou, avec vos Chinois, tu vois pas qu'ils sont trop nombreux pour nous, mais ils vont nous écraser. Mais il s'est passé quelque chose entre Senghor, Mao Zedong et moi. Mao Zedong m'a donné un livre à remettre à Senghor, que des poèmes de lui. Senghor n'avait pas encore reconnu, mais il me disait toujours, il paraît que Mao Zedong est poète, il paraît qu'il est poète, mais tu te rends compte, il est poète. Avec un empire. Il a su ça. Mao Zedong m'a laissé un livre pour le président Senghor. Je l'ai donné à Senghor. Il a ouvert, il a fait, il dit, mais c'est pas traduit. J'ai dit oui, j'ai fait la remarque. Il dit, mais tu sais qui s'est foutu de moi? Je dis qui? Il dit même ton Mao. Dans 20 ans, les Sénégalais vont parler chinois. Ils liront chinois, c'est ça? Il plaisantait quand même. Et j'avais dit en 1959 au président Modibo que la Chine ira très loin. Elle est loin maintenant. Xi Jinping rêve d'être le deuxième Mao.
La voix de Mao Zedong dans la marche du monde. Nous sommes le 1er octobre 1949 et il annonce la création de la République populaire de Chine. Après la révolution soviétique, la révolution chinoise est également une source d'inspiration pour les jeunes nations émergentes. Au moment de l'indépendance du Mali, Mao est sollicité directement par Modibo Keïta sur le plan militaire. La fédération formée avec le Sénégal ayant éclaté, le président malien est libre de ses choix et le fait savoir. Seydou Badian Kouyaté, nommé jeune ministre du Plan et de l'Éducation rurale dès 1957, est celui qui remet à Mao la lettre signée de la main de Modibo.
La Chine s'était engagée avec nous. Modibo m'a fait faire une lettre pour demander des armes, annoncer une délégation militaire malienne qui viendra bientôt pour des armes, que je prépare le terrain. Mao Zedong m'a dit, mais toi tu viens demander les armes, est-ce que tu as fait l'armée, toi? J'ai dit, non, monsieur le président. Il dit, moi non plus, je n'ai pas fait l'armée. Mais moi, j'ai battu les maréchaux. Et toi? J'ai dit, non, je n'ai rien fait. On dit alors, tu vas le faire. On m'a envoyé dans un camp. Voici la photo. Je suis en train de tirer, encadré par deux soldats qui étaient des maréchaux. Je suis resté 15 jours.
Dans un camp chinois?
Oui, un camp militaire chinois. Oui, les Chinois, ce sont les Chinois qui sont autour de moi.
Vous avez été formé pendant 15 jours au maniement des armes dans un camp militaire chinois. Et est-ce que Mao a accepté après de vous confier des armes pour rentrer au Mali?
Il a même dit que je suis un soldat de l'arme rouge.
L'humour de Seydou Badian Kouyaté, paix à son âme, refaisant les dialogues avec Mao. C'est une archive inédite diffusée pour la première fois sur RFI. Et c'est l'occasion de rappeler Ophélie Rion que la Chine de Mao n'est pas un modèle inspirant pour toutes les nations africaines, pour toutes ces jeunes nations émergentes.
Le choix du Mali n'est pas partagé par l'ensemble de ses voisins, par exemple. Et on peut penser au Sénégal de Senghor, qui ne tissera une coopération avec la Chine que bien plus tardivement, à partir du début des années 70. Senghor étant beaucoup plus proche de la France, en fait, que Keïta, même si Modibo Keïta gardera des liens de coopération avec la France, mais il diversifiera les partenaires du Mali.
Liu Pengwang, vous qui travaillez sur les sources archivistiques, que disent les documents que vous avez consultés sur ces rencontres entre Seydou Badian Kouyaté et les dignitaires chinois? Et pourquoi trouve-t-il Mao si éblouissant?
Effectivement, les voyages des Africains en Chine sont très à la mode à l'époque. Je cite dans ma thèse une phrase de Mao. Il dit que si ce sont les invités venant de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine, moi je suis disponible. Mais si ce sont ceux venant de l'Occident, je ne suis pas disponible.
Le message est clair. Mao est accueillant pour les nations émergentes d'Amérique latine et d'Afrique et d'Asie.
Voilà. Donc c'est une volonté ardente pour aider les peuples du tiers-monde que Mao voulait manifester à ses invités. Et c'est ça que peut-être le docteur Seydou Badian Kouyaté trouve éblouissant.
Et ça, Mao le dit en quelle année?
En 59.
En 1959, justement, lors du premier voyage de Seydou Badian Kouyaté.
Oui, tout à fait.
À l'époque, la Corée du Nord est-elle également un bon exemple pour les dignitaires chinois, pour ces jeunes nations africaines?
Oui, en fait, quand Seydou Badian Kouyaté visite la Chine en juin 1964, Zhou Enlai lui demande d'aller d'abord à la Corée du Nord.
En Corée du Nord.
Oui, pour voir les réalisations économiques que ce pays a accomplies depuis la guerre de la Corée. Et je crois que c'est le principe de l'autosuffisance que Zhou Enlai voulait mettre en évidence. Il croit que pour que les peuples africains se libèrent de la dépendance des impérialistes, il faut que ces pays-là développent d'abord les industries légères et puis l'agriculture et puis se tourne progressivement vers l'industrie lourde. C'est par cette voie-là que ce pays peut s'émanciper vraiment de toutes les formes de colonialisme.
Nous le retrouvons, Seydou Badian Kouyaté, à Bamako en 2018, le 1er novembre exactement. Nous sommes dans son bureau, au milieu de ses archives, et il revient sur un acquis industriel fondamental à ses yeux, la coopération industrielle entre la République populaire de Chine et le Mali, pendant la révolution socialiste menée par le parti unique, l'US-RDA.
L'industrie malienne aujourd'hui encore. Si vous venez en tourisme, on vous fera voir une grande usine textile à Ségou. Elle est bâtie par la Chine. La sucrerie à Ségou, qui, pendant les périodes de croisière, emploie 10 000 travailleurs. 10 000. Pendant les périodes normales, 2500. L'usine textile, c'était 1 700 travailleurs maliens. l'usine textile, elle est chinoise. L'usine de sucre, elle est chinoise. Il y avait une tannerie ici, Tamali. Au remaniement, j'ai été ministre de l'industrie et de l'agriculture carrément. Nous avons laissé l'usine textile, la sucrerie, Tamali, tannerie du Mali. En 65, nous fabriquions les souliers de l'armée ici. Et les ceinturons de l'armée étaient fabriqués ici. Aujourd'hui, l'usine a été vendue à des Espagnols. Enfin, on m'a raconté des choses. On émergeait. Parce qu'on était parmi les premiers. Il y avait le Ghana, la Guinée, le Mali, qui reconnaissaient la Chine. Et nous travaillions avec eux. Ils nous ont beaucoup aidés. Toutes les grandes usines, encore aujourd'hui, c'est des usines de la Première République.
Seydou Badian-Kouyaté raconte ses années chinoises sur RFI et il rappelle qu'à l'époque, son Mali, dirigé par Modibo Keïta, la Guinée de Sékou Touré ou le Ghana de Kwame Nkrumah sont pro-chinois d'une certaine façon. Alors ça ne veut pas dire que les relations se limitent à la Chine, mais la Chine en tout cas investit sur ces pays et plus particulièrement sur les Mali, au point que dans les dossiers d'archives que vous avez consulter Liu Peng Wang, les services secrets français ou les diplomates français parlent effectivement de l'année chinoise pour 1964 en ce qui concerne le Mali. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Parce que c'est en 1964 que la France voit un danger chinois qui émerge réellement au Mali.
La France voit un danger chinois.
Oui, voilà. Parce que déjà, au début de l'année, il y a la visite de Zhou Enlai au Mali. Et puis, pendant toute l'année, les visites réciproques entre le Mali et la Chine sont très, très fréquentes. Presque tous les ministres vont en Chine, y compris Sétou Badian-Kouyaté et aussi, je crois, Modibo Keïta, deux fois en Chine en septembre.
Le président,
oui, le président
en
lui-même,
personne.
En septembre et en novembre. Donc il a signé un accord d'amitié avec la Chine en novembre. Il a signé un accord de coopération économique et technique avec la Chine en novembre.
Avec toutes ces usines dont Seydou Badian-Kouyaté semble très fier, et je pense notamment au projet d'usines textiles de Ségou, ville si douce au bord du fleuve Niger. Qu'est-ce qu'on peut dire d'après vos recherches, puisque vous avez, entre autres, consulté les archives chinoises, Liu Peng Wang ?
Vous avez raison, c'est un très bon exemple qui illustre à la fois la coopération sino-malienne dans le domaine de l'industrie légère et aussi d'une façon un peu amusante, peut-être, la compétition entre la Chine et la France au Mali. Il y avait effectivement une course de vitesse entre la Chine et la France au Mali. Ce sont vers les Français que le Mali se tourne d'abord en 1963, mais les Maliens trouvent rapidement que les Français, la conception que l'entreprise française a faite n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Et ils pensent que le processus de financement avec le ministère de la coopération est lent. Donc ils se tournent vers la Chine en 1964. Et c'est Sétou Badian-Kouyaté lui-même qui va demander l'aide à la Chine en juin 1964.
C'est son année chinoise, vraiment.
Voilà.
Donc les diplomates français, lorsqu'ils écrivent des rapports, décrivent une situation bien, bien réelle. Alors la situation est très tendue en ce qui concerne la monnaie pour le Mali, Ophélie Rion, car il y a cette tentative, c'était le cas du côté de la Guinée de Sékou Touré, il y a cette tentative en ce qui concerne le Mali de sortir de la zone franc. C'est une façon de décoloniser de façon radicale, c'est une façon de rompre avec la France. Et là aussi, il y a une compétition entre effectivement ce soutien de la Chine à l'économie malienne et cette France qui veut garder le Mali dans la zone franc.
Oui, en 1962, en fait, le Mali de Modibo Keïta a créé le franc malien et donc met fin au franc CFA, suivant cela l'exemple que vous avez mentionné de la Guinée de Sékou Touré, qui avait aussi mis en place sa propre monnaie, la monnaie étant un symbole, enfin pas qu'un symbole, hein, une réalité dans l'indépendance du pays pour sa gestion économique. Voilà. Donc en 1962, le Mali de Modibo Keïta prend cette décision qui est radicale, révolutionnaire, en choisissant de frapper sa propre monnaie, ce qui va créer un certain nombre de tensions au Mali, notamment dans les milieux commerçants et au sein de la population, voilà, parce que ce sera une monnaie qui va rapidement se dévaluer et ne plus avoir beaucoup de valeur. Mais en cela, ils sont appuyés par la politique chinoise, en fait, qui les soutient dans cette démarche.
Alors justement, comment les Chinois font-ils, Liu Pengwang, pour soutenir économiquement, à travers le commerce, cette jeune nation malienne, puisqu'on sait très bien que imprimer une monnaie malienne, bien sûr, c'est faire acte de souveraineté, bien sûr, c'est rompre avec le colonisateur français, mais si on est tout seul avec sa monnaie, on ne peut rien faire avec.
Oui, effectivement.
Alors comment on fait pour échanger?
Il y a le commerce par le troc. Oui, par le troc. En fait, dès février 1961, la Chine signe le premier accord avec le Mali. Et c'est dans ce cadre que la Chine exporte des denrées alimentaires et des produits de l'industrie légère pour satisfaire les besoins urgents du Mali, des produits de première nécessité. Et de son côté, le Mali exporte plutôt les produits agricoles tropicaux vers la Chine.
Donc ils ont trouvé une façon, entre Chinois et Maliens, de passer par-dessus ce problème de la monnaie qui n'est pas convertible. Alors nous retournons dans le bureau de Seydou Badian Kouyaté, à Bamako, ce ministre pro-chinois de Modibo Keïta dans les années 60, au moment où l'Union soviétique occupe déjà beaucoup l'espace des anciennes colonies françaises, et vous n'avez pas manqué de le relever au fil Rion.
Il me semblait que c'était beaucoup l'Union soviétique qui donnait des armes au Mali,
au départ, les chars. Exact. Au départ, les avions, les armes, c'était l'Union soviétique. C'est vrai. C'était l'Union soviétique. Mais moi, j'étais chinois. C'est moi qui ai conduit la délégation malienne, la première délégation malienne. Ça, c'était en septembre 1961, première délégation du Mali en Chine, première délégation gouvernementale, accueillie par Chuanlai Chenyi.
Et combien de fois vous êtes allé en Chine?
34 fois.
34 fois entre 1959 et 1968. Où vous êtes retourné en Chine après?
Oui, je suis retourné en Chine. Si je compte ça, ça fait 37 fois.
Et tous ces voyages en Chine, qu'est-ce que vous alliez chercher en Chine? Quel était l'objet du voyage?
C'était de voir les usines chinoises, l'organisation, et parler avec des jeunes, des moins jeunes.
Ophélie Rion, jusqu'où cette coopération chinoise infuse et diffuse dans la société malienne, elle-même bousculée par cette indépendance et par la mise en œuvre de cette décolonisation à marche forcée dans ce socialisme de Modibo Keïta?
Là, en effet, on parle de grandes personnalités qui font des voyages en Chine, de grandes personnalités masculines. Mais d'une part, il y a une coopération qui se noue aussi entre les organisations féminines maliennes et chinoises. Donc ça, c'est un point à relever. À ma connaissance, en 1962, Awa Keïta, la sage-femme malienne Awa Keïta, qui a de hautes responsabilités, hein, au sein du bureau politique de l'USRDA, part en Chine, entre autres. Elle part aussi en Corée et au Vietnam. Hein, c'est ce qu'on évoquait. C'était des grandes tournées à l'époque. Il faut imaginer ce que c'était que de voyager dans ce temps-là. Donc, elle part avec une délégation de femmes maliennes pour visiter ces trois pays, dont la Chine. Et elle revient en 1962 au Mali, complètement enthousiasmée, en fait, par son séjour dans ces trois pays. Et notamment, hein, ce qu'elle va déclarer à la presse malienne à son retour, c'est que les exemples des courageuses femmes de Chine, de Corée et du Vietnam sont pour nous, les femmes maliennes, d'une grande utilité. Donc à partir de là, va se nouer voilà, cette coopération féminine. En 1964, ce sont les Chinoises qui viennent au Mali, invitées donc par leurs camarades maliennes. À nouveau, Awa Keïta va louer hein, le rôle de la Chine dans la coopération, le rôle du président Mao, de Chou Enlai. Et la responsable, j'aimerais bien le dire, ce qu'a déclaré la responsable de la délégation chinoise à son arrivée à Bamako. Voilà, donc elle remercie ses sœurs maliennes et Awa Keïta. Et elle dit « Les femmes chinoises et maliennes, souffrant dans le passé de l'exploitation et de l'oppression de l'impérialisme, du colonialisme et du féodalisme, font face aujourd'hui à la tâche commune de lutter contre l'impérialisme et le colonialisme pour la défense des droits des mères et des enfants ainsi que pour la paix dans le monde. » Donc on est dans cette grande rhétorique de l'époque du lien des accords entre femmes, de la coopération entre femmes autour de la paix dans le monde contre l'impérialisme américain et l'impérialisme français et de la défense des droits des femmes et en particulier des droits des mères en fait. Et la coopération entre chinoises et maliennes va beaucoup se nouer autour d'activités pour la protection des mères et des enfants.
Donc un modèle chinois pour les jeunes maliens, les jeunes maliennes, qui est un modèle d'émancipation. Et dans le film de Robert Guédiguian, Twis à Bamako, on voit bien les tensions générationnelles que cela peut créer entre les vieux Soudanais et les jeunes maliens, si j'ose dire.
J'ai besoin de savoir si leurs activités sont subversives et contre-révolutionnaires.
Vous êtes complètement malade. Il ne s'agit que de danse et de musique. Danser, c'est contre-révolutionnaire.
D'une certaine façon, oui. Et l'éducation des masses populaires doit commencer par la rééducation. Comment il s'appelle déjà l'acteur de La fureur de vivre, la tête brûlée?
James Dean.
Mort à 24 ans, au volant de sa Porsche, Samba. C'est ça l'avenir de notre jeunesse malienne?
Pour parler comme Lénine, le socialisme, c'est les soviets, plus l'électrification, plus le twist.
Lénine a dit ça.
Un jour, mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Méfie-tu, c'est méfie-toi, c'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour.
Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou d'elle, 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 de jour en jour. Et puis des filles de plus en plus, tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras et plus tu comprendras. Dans ces moments, tu te souviendras que ton vieux père disait, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou d'elles, d'elles, d'elles de jour en jour. Un jour enfin, tu la verras, tu ne peux pas te tromper. Tu voudras lui dire je t'aime, mais tu ne pourras plus parler. En un clin d'œil, vous serez unis pour le pire et le meilleur. Mais tu tiendras là le vrai bonheur aux yeux de ton cœur. Elle sera belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Comme j'ai dit à ta maman, tu lui diras en l'embrassant, tu es belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour.
Vous êtes bien sur RFI à l'écoute de l'un des nombreux tubes de Claude François, histoire de revivre ses années 60 à Bamako, où la jeunesse dansait le twist la nuit et faisait la révolution active le jour. Nous sommes à l'écoute du témoignage de Seydou Badian Kouyaté, ministre du Plan et de l'Économie Rurale. Et avec nos invités Liupeng Wang et Ophélie Rion, nous essayons de comprendre et de mesurer l'influence de la coopération chinoise sur le projet socialiste incarné par le président Modibo Keïta. Et d'ailleurs, Ophélie, comment faut-il entendre ce projet socialiste de révolution active ?
Alors, le projet de Modibo Keïta, révolutionnaire, est amorcé, disons, dès les années 60, en fait, dès le début des années 60, au moment de l'indépendance. Mais un tournant va avoir lieu à partir de 1966. Enfin, Modibo Keïta, pour plein de raisons extérieures aussi au Mali, notamment le coup d'État au Ghana qui renverse Kwame Nkrumah en 1966, et puis les difficultés à l'intérieur du pays, économiques à l'intérieur du Mali, tout cela va amener Modibo Keïta à revoir sa politique et à radicaliser en quelque sorte la ligne idéologique en se tournant vers le socialisme scientifique. Et donc c'est cette période qu'on a appelée la révolution active à partir de 1966-1967 et qui va de pair avec un renforcement des relations avec la Chine aussi à cette période-là et des référents chinois au Mali. Alors, la révolution active, la terminologie peut renvoyer à la révolution culturelle chinoise. Et cela va se traduire dans différents domaines et notamment dans l'agriculture. L'idée de Modibo Keïta est d'exporter la révolution dans les campagnes.
Liupeng Wang, est-ce que vous diriez que la révolution culturelle chinoise a inspiré la révolution active au Mali ?
En quelque sorte, oui, parce qu'il y a un effet de débordement de la révolution culturelle au Mali, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de Maliens qui vont en Chine, qui s'inspirent un peu de l'expérience révolutionnaire en Chine. Mais je crois que, à vrai dire, est-ce que la révolution active est inspirée de la révolution culturelle en Chine ? Je dirais que non. En fait, les Africains ne comprennent pas vraiment ce qui se passe en Chine. Ils écoutent seulement les slogans chinois. Par exemple, il faut renverser ce qui n'est pas bon. Il faut lutter contre l'embourgeoisement des cadres. Des choses comme ça.
Donc on est dans une interprétation un peu trop premier degré de la révolution culturelle chinoise, à votre avis. Et en tout cas, ça donne beaucoup de pouvoir à la jeunesse malienne.
Tout à fait.
Nous retrouvons notre jeune ministre du Plan et de l'Économie, Seydou Badian Kouyaté. Il se livre à notre micro à Bamako en 2018 et revient sur un projet mythique avec les Chinois, la ligne de chemin de fer Bamako-Conakry.
Un grand projet. Quand nous avons été en conférence en Guinée, il y avait le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée. Et nous avons accompagné Senghor, nous avons accompagné Ould Dada, mais nous nous sommes restés avec la Guinée. Sékou a provoqué une réunion, Sékou a dit, moi j'ai une question, demande au frère Modibo Keïta, quand est-ce que la Guinée, le Mali et la Guinée vont s'unir? Modibo a dit, mais quand vous voulez, seulement il faut qu'il y ait des outils à nous pour que l'union soit une réalité. Quelqu'un a dit, ah, il faut un chemin de fer, Conakry, Bamako. Alors, Sékou Touré a dit, j'ai une proposition, une lettre à Mao Zedong. Une lettre signée Modibo Keïta, Sékou Touré, à Mao Zedong, demandait le chemin de fer Mali-Guinée. Et la lettre sera portée en Chine par le premier ministre de Guinée, c'était Lansanabe Awogui, et le ministre malien des Affaires étrangères, Ousmane Ba. Voilà. Et ils ont été. Mao Zedong a dit d'accord. Et 15 jours après, des techniciens chinois sont venus au Mali pour commencer à faire les levées. On devait poser la première pierre en janvier 69. Alors il paraît que quelqu'un a dit que si la première pierre est posée en janvier, il n'y aura plus de coup d'État au Mali. Si c'est posé, c'est fini. Donc nous, il faut qu'on fasse vite.
Donc, patatras.
Le coup d'État a eu lieu le 19 novembre 68. Je l'ai appris au poste radio. Je me suis levé, j'ai été voir Madera, Keïta. Je l'ai trouvé habillé, qui se demandait qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai dit quel gâchis. Parce que j'ai entendu Moussa Traoré, Modibo Keïta et sa bande, quoi.
Vous l'avez entendu où ?
À la radio, chez moi. Chez moi. Le coup d'État, c'était simple. Ils avaient pris la radio. C'est lui qui émettait. Moi, j'ai vu le Mali perdre, en train de perdre tout ce que j'avais dans la tête. Et c'était pas imaginé, parce que la Chine s'était engagée avec nous. On avait au moins 7 usines que la Chine devait construire encore chez nous. Pour moi, c'était... Je n'avais qu'un mot dans la bouche. Quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Et c'est vrai. Je ne pouvais dire que ça. Je ne pouvais dire que ça.
Quel gâchis, des mots répétés, écrits à plusieurs reprises par Seydou Badian Kouyaté. Il nous dit « J'ai vu le Mali perdre tout ce que j'avais dans la tête ». Comment le comprenez-vous, Ophélie Rioux ?
En fait, ce que je trouve saisissant, c'est à quel point au moment de ce coup d'État, Seydou Badian Kouyaté ne pense pas à lui, en fait, à son poste de ministre qu'il perd et il s'avère qu'il va être emprisonné, mais en fait au projet politique collectif qu'avait ce gouvernement malien pour le pays. Et donc, il voit s'effondrer tous ces projets qu'ils avaient mis en œuvre. 8 ans, c'est très court. Hein. Le Mali obtient son indépendance en 1960, on est en 1968. Donc, les choses sont en train d'être amorcées. Et là, avec ce coup d'État militaire, eh bien, ça met fin. Dans sa tête, il le voit, en fait, il est clairvoyant d'une certaine manière. Il se rend compte qu'un nouveau tournant aura lieu pour le Mali qui ne sera pas celui auquel eux aspiraient en tant que jeunes ministres.
Et notamment avec Moussa Traoré, cela met fin aussi à la sortie du Mali de la zone franc. Quelle trace, Liu Pengwang, de cette coopération Chine-Mali dans la culture chinoise? Je pense notamment à une bande dessinée que vous nous avez apportée. Je suis fascinée, c'est une petite bande dessinée carrée avec une couverture en couleur, avec évidemment les idéogrammes chinois qui parlent du thé de l'amitié. Alors qu'est-ce que c'est que ce thé de l'amitié?
Il s'agit d'une bande dessinée sortie en 1974. Cette culture de thé fait partie de la coopération agricole à l'époque entre la Chine et le Mali. Janvier 1962, la Chine dépêche une équipe d'experts agricoles au Mali, au nombre de 7, répartis dans les domaines de la canne à sucre, de la riziculture et du thé. C'est un travail pionnier en fait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de culture de thé au Mali. Et le Mali doit importer des pays occidentaux, par exemple la France, pour satisfaire ses besoins. Et c'est grâce à l'aide chinoise que le Mali puisse avoir son propre thé. Et c'est en juillet 1963, le premier lot de thé vert raffiné, il est présenté à l'exposition des réalisations économiques de la Chine au Bamako. Et je crois... Dans la page 57 de cette bande dessinée, le thé est présenté à Seydou Badian Kouyaté. Donc, il boit ce thé avec un parfum extraordinaire, parce que c'est un thé malien.
Donc, on retrouve Seydou Badian Kouyaté dans la bande dessinée?
Oui, tout à fait. Oui. Et puis, il est très content. Il le nomme le thé 49 et 60.
Le thé 1949-1960. 1949, naissance de la Chine populaire. Oui. 1960, naissance du Mali indépendant.
Tout à fait. Et c'est un symbole de l'amitié entre la Chine et le Mali.
Pour conclure, Ophélie Rillon, comment qualifier justement finalement cet acteur de l'histoire, Sédou Badian Kouyaté?
Sédou Badian Kouyaté était un militant convaincu de l'indépendance du Mali et pour ce faire a participé à nouer différents types de relations en fait avec d'autres pays. Lui avait particulièrement à cœur de tisser des relations avec la Chine. D'autres, à l'intérieur du gouvernement malien, entretenaient les relations avec l'Union soviétique ou avec la France ou avec les États-Unis. Donc on était sur un gouvernement pluriel et lui, voilà, était qualifié en quelque sorte comme étant le chinois du gouvernement.
Le pro-chinois de la bande de Modibo Keïta, comme disait Moussa Traoré. Mais après ce coup d'État, Sédou Badian Kouyaté perd son ministère. Est-ce que néanmoins, il va continuer à croire à cette coopération sino-malienne?
Et en effet, Sédou Badian Kouyaté va continuer à croire à cette coopération. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que donc il va être incarcéré en 1968. Il va passer de nombreuses années en prison. 7 ans, notamment au bagne à Kidal. Et pendant ces années de prison, eh bien, il va écrire un livre intitulé « Demain », dont on n'a pas les traces, en fait, parce qu'il a été détruit par les militaires quand il était en prison. Et donc, dans ce livre « Demain », « Demain tourné vers l'avenir », en fait, il croit toujours en cet avenir possible et il relate ses expériences d'industrialisation, de coopération menées avec les Chinois. Et donc, c'est à partir de ce passé commun des années 60 qu'il faut construire l'avenir, selon lui. Donc, il garde la flamme allumée. Et quand il sortira de prison en 1975, il continuera à effectuer des voyages en Chine, où il était invité tous les 2 ans, mais à titre personnel, voilà, plus pour des raisons politiques. Donc, la grande lueur de Chine demeure.
Un pro-chinois qui n'avait pas tout à fait tort en ce qui concerne l'avenir. C'était un visionnaire.
Oui, tout à fait. Je voulais dire un mot sur la continuation de cette coopération sino-malienne. Je voulais dire à M. Sédou Badian Kouyaté que cette coopération n'est pas perdue parce que dans les années 80, la Chine continue à aider le Mali et il y a eu cette co-gestion entre la Chine et le Mali pour faire revivre les projets d'aide que la Chine a construits au Mali. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui sont présentes au Mali, parmi lesquelles mon ancien employeur, parce que j'ai travaillé en Afrique pendant 4 ans. Et c'était vraiment une très bonne expérience et j'espère que le futur de cette coopération sino-africaine peut se prospérer.
Alors, est-ce que Senghor avait raison? Est-ce que tous les Africains parlent chinois maintenant?
Mais pas encore.
Merci beaucoup. Grand merci à tous les deux. Et je vous souhaite beaucoup de succès pour votre soutenance de thèse, Liu Ping Wang. Et je rappelle votre livre, Ophélie Rillon, Le genre de la lutte au Mali. C'est aux éditions ENS. Mahomadi, ou les confessions de Sédou Badian Kouyaté. C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin. Réagissez, podcastez, exprimez-vous sur nos réseaux sociaux. Cette émission, c'est la vôtre.